Sur Radio Galère lors de l'émission Écoforum et aujourd'hui nous sommes avec Alice. Tu peux dire bonjour.
Oui, bonjour.
Avec Alice et Manon.
Bonjour.
Des petits débrouillards qui viennent nous parler de cette association qui fait de l'éducation populaire pendant cette heure de Écoforum et je suis très heureux de les accueillir aujourd'hui. Désolé, le reste de l'équipe n'est pas là aujourd'hui, mais on ne leur en veut pas et on leur fait un gros bisou de loin. Donc, je vous propose de vous présenter. Donc, Alice, qui est coordinatrice chez les Petits Débrouillards, et Manon, chargée de projet chez les Petits Débrouillards. Qu'est-ce qui vous a fait devenir salariée chez les Petits Débrouillards ?
Tu veux peut-être commencer, vu que moi, c'est un peu rocambolesque.
Donc maintenant, ça fait à peu près 6 mois. On est arrivés en même temps. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise exactement ?
Je
ne
sais pas d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler chez les Petits Débrouillards, ou est-ce que c'est un pur hasard que tu es arrivé chez eux?
Alors effectivement, il y a un peu de hasard. J'ai un parcours un peu particulier par rapport à la science, puisque moi, j'ai fait donc, du droit et de l'histoire de l'art avec l'école du Louvre, et puis ensuite un master en droit du patrimoine culturel. J'avais un profil un peu plus culturel, mais j'avais travaillé en mécénat de particulier à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Et donc, je pense que dans l'association, j'ai un peu une approche culturelle de la médiation scientifique. Et puis ensuite, j'ai découvert donc, les Petits Débrouillards après avoir travaillé dans une association pendant un peu plus d'un an et demi. Et donc, les Petits Débrouillards, ça me plaisait bien parce que, à la fois, ça regroupait l'aspect associatif, l'éducation populaire, des valeurs que je porte, et puis aussi la médiation scientifique que je pouvais retrouver par rapport à mon parcours passé. Voilà. Donc, voilà super. Pourquoi je me suis retrouvée aux Petits Débrouillards.
Super, super.
Et moi, c'était beaucoup de hasard pour le coup. Moi, j'ai eu un parcours aussi qui n'est pas forcément culturel, mais qui était interdisciplinaire. Donc, quand j'étais jeune, j'ai fait un double bac en allemand et en français, voilà, déjà. Puis, j'ai fait une double licence en philosophie et en études européennes. Donc, sociologie, géographie, sciences politiques, droit, histoire, voilà, un petit peu tout ce qui est possible. Et après, j'ai fait un Erasmus à Berlin. Du coup, moi, j'étais plus portée sur l'international, on va dire, et l'interdisciplinarité. Après, j'ai fait un service civique aussi en Allemagne, dans une ferme, puis dans une réserve naturelle, donc rien à voir. Et après, moi, j'ai fait un master de recherche en philosophie sur des thématiques notamment liées à l'épistémologie, qui est du coup... Prendre la science comme une idée et non pas comme un fait et revenir du coup sur l'histoire des sciences, les problèmes qu'elle soulève et du coup la remettre en question. Et du coup, ça pose toutes les notions de vérité, d'acception, de consensus. Donc voilà, j'étais déjà assez intéressée par les sciences, mais c'était pas mon objectif premier. Et je suis venue à Marseille pour faire un BTS en gestion et protection de l'environnement. Donc rien à voir. J'ai pas trouvé d'alternance. Et du coup, je me suis inscrite à la fac pour devenir prof de philo. Et je me suis rendu compte que je voulais pas enseigner la philosophie comme ça, ni enseigner tout court comme le faisait l'éducation nationale, que je voulais quelque chose de plus vivant et de moins scolaire, sans que ce soit péjoratif le fait d'être scolaire, mais quelque chose de plus vivant, plus de manipulation, plus de réflexion. Et j'ai vu l'annonce pour les Petits Débrouillards, alors que je réfléchissais si je passais le CAPES, pas le CAPES. Et du coup, j'ai postulé, et puis voilà. Mais je ne connaissais pas du tout l'association de base, donc c'est vraiment un pur hasard.
Bah, en tout cas, c'est un joyeux hasard, j'ai l'impression. Et... À vous écouter, pour moi, ça ne me paraît pas si étrange de travailler chez les petits débrouillards, parce que finalement, vous avez un parcours assez transversal, qui remet en question, qui pense, qui essaye d'analyser, qui regarde l'histoire de la science. Et quoi de mieux que d'avoir ce type de parcours-là pour pouvoir ensuite l'enseigner à d'autres personnes. Dire que, bah voilà, comme tu disais, Alice, ça vient d'une idée. On essaie de remettre en question d'où vient cette idée, pourquoi cette idée, comment elle a évolué pour aujourd'hui arriver à de telles conclusions. C'est une vraie démarche scientifique.
Bah pour le coup, oui. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans l'association, c'est ce côté complexe de vraiment réfléchir à nos idées préconçues et d'essayer d'aller plus loin et de manière collective et sans que ce soit quelque chose qui mette de côté parce que par exemple c'est quand on te parle pendant une heure d'un sujet ça te saoule, t'as pas envie d'écouter et d'essayer de trouver d'autres manières. Et je trouve que c'est vraiment politiquement fort parce que c'est essayer de se dire que tout le monde a les capacités de comprendre et que juste les méthodes sont pas forcément adaptées à tous. Je sais pas.
Ouais, ça me fait penser à un bouquin que j'avais survolé, qu'on m'avait prêté quand j'étais chez un ami. Ça parlait des neurosciences et des différents types de mémoire. On n'a pas tous la même mémoire et du coup, on n'a pas tous le même fonctionnement dans notre cerveau pour pouvoir réfléchir, analyser et comprendre. Donc, ce que tu dis, c'est totalement vrai. On n'apprend pas tous de la même façon et parfois, c'est juste parce que c'est mal expliqué pour cette personne-là. Il faudrait lui expliquer d'une autre façon.
Oui, et puis je trouve qu'il y a aussi une idée de... Alors effectivement, on n'a pas tous la même mémoire, on n'a pas tous le même fonctionnement. Mais ce que j'aime bien dans les petits débrouillards, c'est qu'il y a une vraie idée qu'en utilisant en fait, la méthode scientifique, n'importe qui peut comprendre des faits scientifiques, même en n'étant pas un chercheur renommé, avec un bagage énorme derrière soi. Et il y a une vraie idée d'accessibilité qui est vraiment génial.
Super. Peut-être qu'on peut... Parce que là, on a commencé déjà à parler pas mal de cette association. Peut-être que vous pourriez la présenter assez succinctement, qu'on puisse poser le cadre de cette association-là. Je te laisse, Manon. Ah, Alice, pardon.
Du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'association. Donc c'est à la base, en fait, c'est au Canada. Il y a un monsieur qui s'appelle Félix Maltais, en fait, qui se dit que ce serait chouette de publier, en fait, des petites expériences pour les gens à faire à la maison. Et à la base, c'était vraiment juste de relater les actualités scientifiques et que ce soit assez court et accessible pour pouvoir, en fait, tout simplement transmettre ces informations. Et en fait, il est arrivé qu'il y ait des personnes... Il a demandé de quelle manière ce serait le plus pertinent de le transmettre ou qu'est-ce que les lecteurs aimeraient avoir. Et on lui a dit qu'on aimerait en fait tout simplement avoir ce même genre de journal, mais pour les enfants. Et du coup, de là est né les petits débrouillards qui, à la base, du coup, étaient juste des articles de journaux dans lesquels on expliquait en fait comment reproduire des expériences faciles à faire à la maison. Donc, il y avait déjà ce côté médiation, accessibilité pour tous, pour le jeune public, et surtout de reproduction et de manipulation un peu facile et DIY à la maison. Donc ça, c'était dans les années 70. Il faut attendre les années 85 pour que ça arrive en France, les premiers clubs. Parce que de l'article de journal, du coup, c'est monté des clubs, des médiations dans les écoles. Et en France, les années 85. Et du coup, pour la région PACA, c'est 99. Et je vais vous laisser Manon vous l'expliquer.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est donc une association, on l'a déjà dit plusieurs fois, de médiation scientifique. L'idée, c'est de faire des animations, des ateliers. Ça peut prendre énormément de formes différentes pour transmettre la science. Et là-dessus aussi, on a une vision très large des sciences. Hein. On entend toucher autant les sciences exactes,
entre
les
guillemets.
Voilà, ce mot fait débat. Les sciences sociales. Voilà, l'idée c'est vraiment, alors évidemment, de transmettre la passion des sciences, mais aussi de s'interroger, comme Alice l'a dit tout à l'heure, de reprendre peut-être des idées reçues, ou même parfois dans des discussions des personnes qui vont dire eh ben, est-ce que la Terre est plate ? Mais oui, mais comment on vérifie ? Eh ben, on peut le vérifier. En fait, il y a plein de petites expériences hyper accessibles qu'on peut faire nous-mêmes, et c'est génial de voir qu'on est capable de remettre en cause des idées comme ça, juste simplement par nous-mêmes. Donc voilà, c'est ça l'idée.
C'est un super projet. Donc si j'ai bien compris, pour résumer, c'est votre but, c'est vraiment de faire de la médiation scientifique, de donner le goût à la science et rendre curieux les personnes en leur proposant des ateliers assez simples pour pouvoir voir la science et faire de la science eux-mêmes. Et tu nous disais, la science, c'est pas une science, ça touche toutes les sciences. Et ça m'a fait très plaisir d'entendre ça, parce que pour moi, la science, c'est même la philosophie, c'est la science, en fait. La philosophie, ce serait la mère de toutes les sciences, puisque la science, c'est une façon de penser. Et on part de la philosophie pour penser, poser des cadres, des systèmes qui vont devenir des sciences. Les mathématiques, par exemple, dans ce cas-là, ce serait juste un langage utilisé pour faire certains types de sciences et pouvoir écrire et comprendre. Mais à la base, ça reste une pensée et c'est dans notre tête. Donc je trouve ça très beau de trouver plein de façons différentes de montrer, de donner de goût aux sciences. Et tu avais fini sur la Terre est plate. J'aimerais beaucoup avoir un exemple d'expérience que chacun pourrait faire chez soi afin qu'on arrête de dire que la Terre est plate.
Moi, je la connais pas. Je sais qu'il y a une expérience tout simplement avec l'ombre, hein, où on peut, en fait, tout simplement, on trace notre ombre par terre et puis on attend plusieurs heures et en fait, on va voir que l'ombre, elle tourne. Hein. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et je sais qu'il y en a aussi d'autres. Après, je ne les connais pas toutes.
Mais ce n'est pas parce que le soleil tourne autour de nous ?
C'est parce que le soleil tourne autour de nous. Donc, on pourrait dire, mais boum, la Terre est plate, ça ne change rien.
On est au centre du monde, non ?
Évidemment. Et la France, surtout, est au centre du monde, évidemment.
Marseille, même.
Marseille, tout ça.
Après, il y a, au-delà d'expériences qu'on peut mettre en pratique comme celle-là, parce qu'on pourrait dire, oui, il suffit de monter dans une navette spatiale pour s'en rendre compte et voir. Et on pourrait dire, tout simplement, on a des images qui le montrent. Mais du coup, le complotiste, ou pas forcément le complotiste, mais la personne sceptique, va dire, en fait, ça peut être modifié, ça peut être photoshopé, tout ça. Donc, après, même une expérience quotidienne, enfin pour ceux qui ont la chance, c'est de monter à un point qui est assez élevé et on voit que l'horizon, en fait, se courbe. Donc, là, un peu, parce que souvent, les gens vont dire, je crois que ce que je vois, mais en fait, on peut le voir, le fait que la Terre n'est pas plate. Et donc après, il y a aussi la question de quelle confiance on fait justement à toutes les équations qu'on peut faire par rapport à la distance que met le Soleil à se déplacer et de l'ombre. Et du coup, je pense que le vrai problème, enfin, je me permets de dériver là-dessus, mais sur la Terre est plate ou les pyramides n'ont pas pu être construites par des humains, ce genre de choses, ça révèle un vrai problème de confiance envers la science et envers les autorités en général. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre aussi. Et donc nous, notre rôle aussi, c'est de redonner confiance en l'intelligence commune et collective et d'arrêter de séparer justement la science et les citoyens. Où il y aurait peut-être moins ce problème, je pense, de confiance.
Ouais, voilà. En fait, moi, dans ce que j'entends que tu dis, et puis dans... Voilà, on peut se dire qu'il y a aussi deux approches, en fait, quand on essaye de contredire comme ça des idées reçues. En fait, il y a donc effectivement essayer de comprendre le problème de fond, le rapport à la science. Et puis il y a aussi, et je trouve que les deux ensemble c'est intéressant, et c'est aussi un principe des animations petits débrouillards, c'est de faire ce qu'on appelle des cascades d'expériences, parce qu'on l'a dit en fait. Quand j'ai expliqué la première expérience, effectivement la première, on peut effectivement comprendre que le Soleil tourne autour de la Terre, enfin... En tout cas, qu'il y a une rotation.
Et ça bouge.
Mais voilà, mais on a juste un point et ensuite on va s'interroger sur un autre point. Donc ok, mais est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour de l'autre ? Et donc on va faire une deuxième expérience. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des cascades d'expériences. Et finalement, en faisant ces cascades d'expériences soi-même, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement pouvoir retrouver confiance aussi en la science et comprendre en fait que c'est comme ça que fonctionnent les données scientifiques en fait, auxquelles on a accès. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance.
Oui, ça rend palpable la science quand on la fait, on la vit. Et donc tout de suite, ça rapproche votre public de toutes ces équations qui peuvent faire super peur.
Oui. C'est ça.
Mais c'est ça, c'est se rendre compte que la science aussi, c'est pas juste, comme tu disais, faire des équations compliquées et se demander quel est le sens de la vie. C'est pas forcément faire ce genre de choses. Tu peux faire de la science avec des choses très simples. Quand tu fais de la cuisine, au final, c'est des réactions chimiques, c'est de la science. En fait, la science, elle est partout autour de nous, mais sans forcément s'en rendre compte et se rappeler que c'est quelque chose qui devrait pas justement être séparé de l'ensemble de la population et qui est pas forcément complexe, même si justement en partant de choses simples, on peut complexifier au fur et à mesure et approfondir ce qu'on veut découvrir.
En tout cas, oui, c'est sûr, il y a un certain chemin à parcourir avant d'arriver à l'étude de la théorie des cordes, par exemple. Moi, je vous avais vu notamment à Utopia. Et je me souviens des lunettes qui, à la fois, donc c'est des lunettes avec un masque qui n'est pas plat. Donc du coup, ça, il y a des variations. C'est par exemple soit des sinusoïdes, donc des vagues, ou je ne sais plus comment c'était l'autre. Donc vous m'aviez expliqué que ça ressemblait à la vision qu'on pourrait avoir en prenant des substances illicites. Mais moi, en ayant un bagage de scientifique, là-dessus, je vois aussi l'intérêt de l'optique. Parce qu'au final, c'est de la diffraction de la lumière qui, suivant les surfaces qu'elle va traverser, elle ne va pas traverser tout droit, elle va changer de forme. Et c'est pour ça que l'on voit ces différentes formes en mettant juste des lunettes.
Mais c'est ça rejoint le côté interdisciplinaire et pluridisciplinaire, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on aborde un sujet, on peut rebondir sur tellement d'autres choses. Et je pense que ça permet de nous rendre compte justement de, comme on disait de base, que le but de l'association, donc, c'est de faire de la médiation scientifique, du coup de transmettre les sciences de manière, on va dire, efficace, ludique et surtout très ludique et pédagogique, donc de rigoler, de passer un bon temps ensemble, que ce soit pas, on n'est pas obligé d'être triste quand on est sérieux, quand on veut parler de choses qui ressemblent plus ou moins au réel ou de s'approcher, entre guillemets, de la vérité, bien sûr. Et je trouve que c'est ça, on se rend bien compte qu'au final, quand on met ces lunettes par rapport à l'addiction, directement, ça nous renvoie sur, je ne sais pas, ça peut renvoyer sur les perceptions, sur la psychologie, comme sur l'optique. Et en fait, il y a énormément de connexions et de passerelles. Nous, le but de l'association, justement, c'est de rendre simple des choses complexes plutôt que de simplifier le réel. C'est vraiment cette volonté de profondeur, de complexification et d'échange, en fait, avec les publics.
Donc, en pratique, finalement, c'est vraiment de la présence et de la discussion avec le grand public que vous allez faire ?
En pratique, on fait quand même beaucoup de manipulations. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de manipulations, beaucoup d'expériences, beaucoup parfois de petites expériences, et ensuite beaucoup de questionnements qui viennent à la suite de ces expériences. Et plus le public va se questionner, va poser des questions, d'ailleurs peut-être parfois auxquelles on n'aura plus les réponses, et plus ce sera gagné dans le sens où ça veut dire que on l'a en fait, ça y est, on est en train d'approfondir le sujet, on est en train de pousser et de développer l'esprit critique. Et ça, c'est vraiment une des valeurs qu'on porte énormément au Petit Débrouillard.
C'est super important. Donc aujourd'hui, on a l'impression de voir des personnes qui suivent sans forcément réfléchir, sans forcément se poser les bonnes questions. Donc l'esprit critique, on a grand besoin, merci. Autre question, pour changer un peu de sujet, vous êtes présent où ? Parce qu'on a eu un petit historique, le Canada, puis en France, et PACA. Mais vous êtes où ? Vous êtes international ? Comment ça se passe ?
C'est international.
Waouh !
Waouh ! Donc, par exemple, mais c'est international avec évidemment chaque pays a ses spécificités. On n'est pas présent évidemment partout dans le monde, mais par exemple, on est présent en Allemagne, au Maroc, Canada, donc dans plein de pays.
Et vous changez de nom ou c'est quand même les Petits Débrouillards ?
Non, c'est...
Je sais pas, peut-être que ça s'appelait les Débrouillards au Canada, je sais plus, mais...
Au Canada, c'est le même nom, c'est les Petits Débrouillards, mais je sais qu'en allemand, c'est pas du tout la même chose et je saurais plus vous dire... Pourtant, je parle allemand, mais je saurais plus vous dire ce que c'est. Mais je me souviens que c'était pas du tout la traduction des Petits Débrouillards. Et nous, en fait, c'est une association qui est nationale, mais nous, on fait partie de l'antenne régionale PACA, donc avec une direction qui est particulière. C'est quand même des antennes...
Oui, c'est ça. En fait, chaque région est indépendante, mais il y a une cohérence nationale qui est donnée à l'aide des directeurs régionaux. Et ensuite, dans chaque région... il y a une antenne par département. Donc nous, avec Alice, on est rattaché à l'antenne des Bouches-du-Rhône.
D'accord.
Donc on est quand même essaimé sur tout le territoire français.
Vous avez une vraie présence quand même assez importante, parce qu'il y a d'autres associations qui vont avoir un siège par pays ou par macro-région pour essayer d'aller un peu partout. Avoir une antenne dans chaque département, c'est beaucoup, c'est pas mal.
Bah, c'est qu'il y a beaucoup de besoins. Donc, vraiment, l'idée, c'est de répondre aux besoins des publics. Et du coup, ce qui va faire que même sur Bouches-du-Rhône, on va avoir une couverture territoriale qui est quand même assez grande. Donc, on va être très présent sur Marseille, mais autant à La Ciotat, au Bagne, à Port-de-Beauce, à Miramas, à Salon-Provence, à Aix-de-Provence. L'idée, c'est vraiment d'avoir une couverture qui soit en adéquation avec les besoins des populations, en fait.
Et du coup, c'est quelle population que vous touchez en priorité ?
En priorité, c'est les quartiers prioritaires politiques de la ville.
Ok.
Donc ça, c'est en priorité. Ça, c'est une volonté de l'association, justement, pour être là où il y a besoin, justement, d'animation, pour faire vivre les quartiers, donc d'un point de vue social. Et aussi parce que, malheureusement, l'égalité des chances à l'école, c'est pas une réalité dans la pratique. Et c'est pour permettre de donner d'autres leviers à des gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un capital symbolique et culturel et économique qui est le même. Et du coup, d'essayer de pallier à ça, comme on peut.
Ok. Et dans ces quartiers-là, vous avez tout public, des jeunes, des adolescents, des moins jeunes, des moins jeunes.
Alors, on a pour idée de toucher quand même tous les publics. Dans les quartiers, notamment de Marseille ou dans les cités des villes aux alentours, on va avoir quand même une majorité, si je ne me trompe pas, de 8-10 ans, 10-11 ans.
6-12 ans.
Voilà, 6-12 ans, pour de façon plus large, voilà. Maintenant, c'est parfois selon... on a des animations qui vont être, qui vont cibler un autre type de public. On va parfois cibler des seniors, on va parfois cibler des très jeunes. On va aussi parfois cibler ce qu'on appelle les invisibles, donc des personnes qu'on a plus de mal à toucher pour plein de raisons différentes. On peut avoir un public aussi en situation de handicap.
En prison.
Oui, c'est ça. On travaille aussi avec les prisons, notamment chez les jeunes. Bon, là, ça retouche un public jeune, mais voilà, on essaye. En fait, l'idée, c'est d'essayer de toucher le plus large public possible. Maintenant, on sait qu'il y a des besoins spécifiques et on essaye de s'adapter vraiment aux besoins. Et c'est sûr que dans les quartiers de Marseille, c'est bien... Enfin, il y a un vrai besoin au niveau des jeunes de 6 à 12 ans. Ça fonctionne hyper bien. Je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses.
Et après, on essaie quand même de toucher les adolescents, évidemment. Et du coup,
plus difficile à toucher.
Plus difficile à toucher. Et du coup, c'est à nous d'adapter les contenus, les horaires aussi de où est-ce qu'on se trouve, les lieux. Donc, il y a toute une pensée en fait, à développer au niveau de la localisation, des horaires, pour être plus pertinent. Et aussi, ça que je voulais rajouter, on est aussi présent auprès des scolaires.
Ah oui.
Et du tout public, lors d'événements. Donc comme disait Manon, vraiment le but, c'est de toucher tout le monde.
Mais ça a l'air d'être un vrai challenge de réussir à toucher le plus de monde possible. Parce que je suppose que sur un même sujet, vous ne pouvez pas faire l'animation de la même façon, suivant que ce soit quelqu'un de 6 ans, de 15 ans, de 20 ans, ou de 35 ans ou de 60 ans.
Ah oui, c'est un vrai challenge. Après, on a des animateurs exceptionnels qui travaillent dur là-dessous et en fait qui vont adapter toute leur préparation en fonction des publics. Et je pense que c'est une vraie force. On a effectivement des animations, on va dire, de base qui vont être prêtes, alors plus ou moins. Et ensuite, c'est la force des animateurs de leur capacité d'adapter vraiment en fonction des publics. Et honnêtement, nos animations, elles peuvent vraiment s'adapter de façon ultra large. Et ça, c'est super intéressant aussi.
Évidemment, il y a des petites modifications à faire. Et il y a aussi des sujets qui se prêtent moins en fonction des âges, parce qu'on n'est pas forcément touché. Pensez par exemple à stéréotypes et discrimination. Quand on est jeune, c'est plus difficile d'aborder ce genre de sujet parce qu'on n'est pas forcément touché et parce que nous-mêmes, dans notre construction personnelle, on ne s'en rend pas forcément encore compte. Mais nous, c'est aussi à nous de faire le travail d'anticiper un peu quel public on va avoir et du coup d'adapter nos animations en fonction.
Une petite dernière question avant de passer à la pause musicale, parce que c'est bientôt l'heure. Moi, je me demandais, si vous parlez des animateurs, ça représente combien d'animateurs les Bouches-du-Rhône, les petits débrouillards, à peu près?
Je crois que c'est une quinzaine.
Non, sur Bouches-du-Rhône,
oui,
ici.
Oui, Bouches-du-Rhône.
En ce moment, je vais dire, c'est entre... Je vais dire 17, je pense, à peu près.
Mais c'est quand même c'est pas mal quand même pour une association, je trouve.
Oui, évidemment, ça dépend des antennes.
Ça dépend des périodes et des antennes.
Ça dépend des périodes.
Ça dépend des antennes en fonction des besoins, parce qu'à Marseille, on a beaucoup de besoins qui sont liés à la densité démographique.
Et on cherche toujours des animateurs, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes.
Si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à nous écouter. On est au 51 avenue de Prévalon. Voilà, vous pouvez venir, on vous attend.
Voilà, s'il y a des personnes intéressées de faire de la médiation scientifique, allez voir les petits débrouillards et cherche des candidats. Donc, je vous propose de passer à la pause musicale. Est-ce que vous voulez introduire le morceau qu'on va écouter? Parce que c'est un morceau assez légendaire.
C'est un morceau de Stardust, ça s'appelle Music Sounds Better With You. Et personnellement, c'est une musique qui m'a accompagnée toute ma vie, on va dire. Et c'est un son qui a été fait par les Daft Punk, mais quand ils n'étaient pas encore les Daft Punk. Et je trouve que c'est un son qui est assez légendaire. Et je vous invite à aller voir le clip aussi, qui est assez sympa.
Sur ce, on vous laisse. Belle écoute. Vous êtes bien de retour sur Radio Galère, l'émission Écoforum. Et ce soir, nous avons les petits débrouillards et plus spécifiquement...
Les petites débrouillardes de ce soir.
Les petites débrouillardes, Manon et Alice. Nous sommes de retour de cette superbe transition musicale avec un son légendaire que moi aussi j'adore. Et on va continuer cette émission en parlant un peu plus concrètement des différentes actions qui sont menées par les petits débrouillards. Parce qu'on a dit qu'ils faisaient beaucoup de choses, qu'ils touchaient beaucoup de public, dans du scolaire, dans des événements, dans la rue. Mais concrètement, comment ça se passe, les filles, vos animations, qu'est-ce que vous faites ?
C'est bien parce qu'on reste dans les mêmes écueils qu'on peut critiquer, de rester dans la théorie et de ne pas donner assez d'exemples. Donc nous, on va faire plein de choses différentes, mais ce qu'on va faire en majorité, ça va être de l'animation de rue, qui est en fait des animations qui sont en bas des tours d'immeubles dans les quartiers, qui sont complètement gratuites.
Donc vous vous posez avec vos stands et
c'est
voilà.
Ça. Et on se pose, on a une grosse tente jaune avec nos tables.
Tous les enfants nous voient, ils descendent.
Ils descendent, ouais. Donc on va avoir ça en grande majorité, mais à côté, on va faire aussi donc des animations dans les écoles, les collèges et les lycées. On va avoir aussi des stages et on va faire des cités d'Eb aussi, qui sont des animations de rue, mais sur toute une semaine pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.
Des cités d'Eb.
Des cités débrouillardes. Pardon, désolé. C'est sûr que ce n'est pas clair comme ça. Pour nous, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Et du coup, ouais, c'est l'idée d'offrir l'opportunité aux jeunes d'avoir quand même une présence, d'avoir des animations sur toute une semaine, même s'ils ne partent pas en vacances.
C'est intéressant, en plus comme ça il y a des liens qui se créent quand même avec les animateurs, il y a du vrai lien social qui peut être fait aussi entre les enfants, avec les parents et toutes les personnes qui passent en fait.
Puis ça permet d'approfondir une thématique parce que tu as toute la semaine et de créer une vraie pédagogie du projet dans le sens où vraiment les enfants vont être acteurs en fait de leur semaine où ils vont dire on veut faire ci, on veut faire ça et on va pouvoir vraiment au fur et à mesure de la semaine suivre eux leur cheminement mental, leur développement et d'aller plus en profondeur dans une thématique.
Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui vous dit le lundi « Ah, ça a l'air super » et je me demandais comment ça fonctionne, le lendemain, vous allez arriver avec une autre animation qui vous lui expliquera un peu plus cette thématique-là ?
C'est ça, on va rester dans une thématique globale, mais évidemment, l'idée, ça va être de coller aux volontés, aux interrogations du public pour qu'il soit vraiment acteur de la démarche, que ce soit du coup dans la manipulation, dans le questionnement, mais aussi dans la conception de la semaine. Et donc l'idée aussi, c'est qu'on va essayer d'avoir un projet comme fil rouge au bout de la semaine, que eux vont choisir et qu'on va essayer de réaliser petit à petit tous les jours pour avoir un beau rendu à la fin de la semaine.
Là encore, en fait, il y a une vraie question d'adaptation de la part des animateurs pour coller le plus possible à leurs besoins.
Ouais, qui sont très à l'écoute et très réactifs.
Trop bien. Et encore ? Donc là, on a parlé des cités d'Eb, des animations en bas d'immeubles, dans la rue.
Du coup, ouais, je l'ai dit, stage aussi. On va aussi avoir des stages, c'est-à-dire pendant une semaine. Donc là, ça va être par contre sur inscription, alors que cité d'Eb, pareil, c'est libre. On vient, on part, comme on veut.
Entrée libre, de toute façon, c'est dehors.
C'est ça. Mais on ne va pas leur dire, maintenant, tu es là, tu restes pendant les 3 heures. Un stage, du coup, pareil, ça va être une régularité. Ça peut être toutes les semaines, comme ça peut être vraiment sur une semaine complète. Et donc là, par contre, il va y avoir un groupe plus ou moins fixe. Et avec, pareil, ça va être approfondir une thématique, avoir une valorisation à la fin, ou faire un projet tous ensemble pour rendre les jeunes acteurs, mais qui va être, du coup, en intérieur et avec un public qui a déjà été déterminé au préalable.
D'accord.
On a aussi des modulothèques. Oui. Qui sont des modules qu'on a sur diverses thématiques, transition écologique, être humain, vivre ensemble, le réchauffement climatique,
c'est
l'alimentation.
Des sortes de petites expositions en fait, qu'on peut placer, dans les halls des collèges, des lycées ou dans les centres sociaux.
Ou à l'Assemblée nationale, par exemple.
faudrait qu'il fasse de la place. Et ça prend quand même pas mal de place.
Ça peut prendre pas mal de place. Et donc, il y a des animateurs qui sont présents. Et pour chaque module, en fait, il va y avoir une thématique qui va être développée. Voilà.
Et c'est pas une expo dans le sens où on lit. C'est vraiment, en fait, c'est des jeux. Il faut trouver les bonnes réponses, il faut faire des manipulations. Ça reste vraiment dans la démarche
petit débrouillard.
J'ai cru comprendre que votre démarche était vraiment axée ludique parce que ça intéresse plus facilement et ça attise la curiosité.
Du coup, c'est ça, c'est une manière un peu utilitariste, on va dire, de capter le public. Et aussi le fait que, même pour les animateurs ou pour nous, c'est quand même beaucoup plus sympa de parler de choses sérieuses en rigolant, en s'amusant, et ça permet aussi de dédramatiser, de sortir la science de sa tour d'ivoire en disant « mais en fait, c'est fun ».
Ça rend accessible la science.
Oui, et puis en manipulant, on devient acteur, alors que quand on écoute une conférence scientifique, on est beaucoup moins acteur.
Et manipuler, mine de rien, comme tout le monde fait la manipulation, ça permet de créer vraiment un esprit de groupe aussi, et de créer un consensus. Parce que si on te dit « ça se passe comme ci, ça se passe comme ça », t'es là « bon, ok, très bien, peut-être ». Mais si tout le monde le fait, et quand on le fait, ça fait tous la même chose, tu te dis « ah mais ouais, ok, en fait, effectivement, c'est le cas ».
Oui, effectivement, dans nos animations, les expériences, généralement, enfin, l'idée, c'est pas de donner la solution et de faire l'expérience. L'idée, c'est vraiment de... on expérimente quelque chose, on constate le résultat, et qu'est-ce qu'on en fait de ce résultat? Comment on y réfléchit? Qu'est-ce que ça nous évoque comme question? Il y a aussi comme réponse. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais d'ailleurs, peut-être Alice, tu peux donner un exemple type d'une animation.
Donc on en fait vraiment beaucoup. Et comme disait Manon au début, on ne s'interdit aucune thématique. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aborder tous les sujets qui sont préalablement validés, on va dire, scientifiquement. Par exemple, il y a une animation qu'on fait assez régulièrement qui est sur la biodiversité terrestre. Et donc, comme je viens de dire... qui a été fait avec des chercheurs, avec des musées, où c'est vraiment valable, on va dire, au niveau institutionnel, finalement.
Oui, souvent, ça part d'une malpédagogie qui a été le fruit d'un gros travail au niveau du national. Donc, c'est des mal pédagogiques, d'ailleurs, qu'on peut vendre. On a des formations autour. C'est un support qui est quand même très sérieux.
Donc, c'est des mal pédagogiques que les petits débrouillards nationaux vont faire. Donc tout un échantillonnage sur un sujet d'expérience et de façon d'apporter le raisonnement à tout type de public. Donc pour apprendre en fait, c'est des choses que vous pourriez vendre éventuellement à l'éducation nationale s'ils ne le font pas.
On les vend à pas mal de personnes différentes. Alors il y a des associations, des animateurs, je crois qu'un petit peu les scolaires, mais je ne sais pas si c'est...
On peut les vendre, mais on fait une formation autour pour être sûr que justement les contenus et la manière de faire ne soient pas dénaturés.
Donc là, tout à l'heure, vous aviez parlé de la transition écologique. Ça va être un module entre l'espèce de gros module avec plein d'associations, avec plein de pardon, d'expériences et de jeux à faire, plus la façon d'expliquer, plus d'autres jeux ou ateliers que les personnes peuvent faire eux-mêmes.
En fait,
des expériences.
Les mâles, va y avoir du coup des apports théoriques pour expliquer, nous, pour avoir le background un peu pour savoir de quoi on parle. Et il va y avoir en fait plusieurs axes, un peu comme différentes grandes parties, avec dedans des déroulés, quelles questions on va poser, cette question sur quelle expérience ça peut déboucher, parce que l'idée c'est quand on se pose une question, je sais pas, pourquoi la pomme elle tombe en fait quand je la jette par terre. Ça va pas être de dire « ah bah c'est la gravité », c'est « ah mais quelles pourraient être les réponses ? Est-ce que c'est la gravité ? Est-ce que c'est une force occulte ? Est-ce que en fait c'est... il y avait ça, il y avait le grave, par exemple, et le léger, autant d'Aristote, voilà, je me permets de
dire. Le grave et le léger.
Oui, c'était ça, c'était des forces différentes. Donc voilà, et justement, de voir qu'en fait, on peut apporter plein d'explications différentes. Une fois qu'on a proposé ces hypothèses, et ben, en fait, les manipulations, elles viennent pour les confirmer ou les infirmer. Et du coup, c'est ça, c'est les mâles, on va vous expliquer le déroulé. Et après, évidemment, chacun est libre... de le prendre d'une façon ou d'une autre, parce qu'évidemment, les questions, elles n'arrivent pas forcément de manière automatique ni prédéfinie. On ne peut pas anticiper tout ça, mais ça permet de proposer des expériences qui peuvent répondre à ces questions pour éprouver justement notre sens critique.
Pour étayer le raisonnement scientifique, pour répondre aux questions, être prêt à toutes les possibilités, entre guillemets.
C'est ça. Et par exemple, ce qu'on disait avant, pour peut-être être plus concret, une animation qu'on fait souvent, c'est sur la biodiversité des sols. Et du coup, au lieu de dire « bon, on va faire ci, on va faire ça », déjà, on va demander « c'est quoi le mot biodiversité ?» À quoi ça correspond pour vous ? Et s'ils ne savent pas, on ne va pas leur dire « ça, ça, ça ». On va faire un pendu, on va faire des jeux. Il faut que ce soit vraiment un... Ce n'est pas un moment prise de tête, en fait. C'est où on réfléchit, mais de manière... on s'amuse. En fait, on se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un peu...
L'idée, encore une fois, c'est de s'interroger. Ce n'est pas d'apprendre bêtement une définition de la biodiversité. C'est de comprendre... pourquoi ce mot, comment ce mot a été construit, quelle résonance il a, à quoi ça correspond concrètement, en faisant plein d'expériences, encore une fois. Ce n'est pas juste de lire une définition.
Et du coup, la biodiversité, c'est quoi ?
Donc, justement, j'allais dire ça. Par exemple, si un enfant nous dit biodiversité, ça me fait penser à bioderma, par exemple, quelque chose comme ça, où on peut être là, qu'est-ce qu'on va faire de ça ?
Bah oui, il y a bio devant.
Il y a bio dedans, et du coup, qui correspond à biologie. Mais par exemple, biodiversité, c'est l'ensemble du coup, de la diversité des êtres vivants. Et donc là, c'est une définition comme ça qui pourrait tirer probablement du Larousse. Et du coup, ça va être, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a bio, qui correspond par exemple à biologie, et diversité. Ça va être de recouper, d'essayer de voir ensemble l'étymologie. Et ils vont te dire, biologique, comme le Nutella, tout ça. En fait, c'est ça, il n'y a pas de réponse bête. Au final, tout est percutant. Et du coup, ça va être justement l'art des médiateurs de réagir dessus et de savoir comment amorcer sur une expérience en mode... Bon, la biodiversité, c'est l'ensemble de la diversité des êtres vivants. Eh bien, venez, on va aller faire une chasse aux insectes pour aller voir toute la diversité des êtres vivants qu'il y a. Donc, on va faire une chasse aux insectes, on va les recueillir, on va essayer de voir à quoi ils correspondent. Et après, à partir de cette classification, de voir comment fonctionne cette classification. Est-ce qu'elle est pertinente ou non ?
Combien d'espèces vous avez répertoriées ?
Voilà, c'est ça. De leur faire un petit manuel de chasseur de bêtes, et après d'amorcer sur, comparer deux endroits. Est-ce qu'il y a autant de bêtes à cet endroit ou l'autre ? Est-ce que c'est lié au fait de ce qu'elles aiment ? Est-ce qu'il y a une perte de biodiversité qui est liée à l'action humaine ?
C'est les mêmes bêtes ?
Est-ce que c'est les mêmes bêtes ? Voilà, c'est...
Trop bien.
Et puis ça, les enfants, ça les passionne. Vraiment, la chasse aux insectes, c'est incroyable. Après, en plus, ils sont souvent dans des univers assez bétonnés. Et en fait, ils se rendent compte que dès qu'il y a un arbre ou trois brins d'herbe, en fait, il y a énormément d'insectes. Et du coup, ils deviennent tous fous. Et après, ils veulent absolument récupérer tous les insectes qu'ils voient.
C'est super que vous fassiez ça parce que des fois, je vois des personnes qui ont la phobie des insectes ou qui se demandent pourquoi il y a des insectes à la maison, etc. Moi, j'ai grandi à la campagne. C'est normal qu'il y ait des insectes, c'est normal qu'il y ait des fourmis chez soi, c'est normal qu'il y ait des mouches, ça rentre par les petits trous. Et voilà, parce qu'on vit chez eux aussi, en fait. La terre, c'est leur maison à eux, avant d'être la maison à nous.
Après, ce qui est compliqué, c'est que les peurs, parfois, malheureusement, nous, on ne va pas pouvoir
On ne peut pas trop les comprendre.
On ne peut pas forcément les comprendre. Et c'est quelque chose qui, peu importe si c'est justifié ou non, moi, ça m'est déjà arrivé où il y a des enfants qui... Peur.
Oui, je crois que les araignées, ça reste le sujet compliqué.
On ne peut pas faire grand-chose.
Ouais.
Je suis désolée de couper un peu cette conversation qu'on avait, mais l'heure tourne. On avait d'autres sujets qu'on voudrait parler.
Oui, c'est vrai.
Et notamment, question, comment est-ce que vous faites pour vivre ? Parce que là, on a vu que vous faisiez beaucoup de choses pour le bien public, mais comment est-ce que vous pouvez financer des animateurs, des animations et toute la logistique et l'organisation qu'il doit y avoir derrière ?
Effectivement, donc on a plusieurs sources de financement. On a beaucoup de subventions. Donc ça, c'est des appels à projets, notamment politiques de la ville. On a pas mal de sources différentes de subventions, donc des subventions publiques, qu'il faut qu'on redemande chaque année. Ce n'est pas acquis.
C'est un vrai travail pour
les fois, c'est triannuel.
Mais c'est rare. Et puis bon, ça reste que 3 ans. Et puis, on a aussi des prestations dont on parlait tout à l'heure.
Comme les stages. du coup ?
Les stages, parfois, c'est des subventions. Ça dépend. Okay. Vraiment, ça dépend. Les prestations, ça peut prendre toute forme.
Ça peut être pour des écoles, ouais. Comme ça peut être pour des événements particuliers. C'est comme des fois, ça peut être des centres où on n'a pas de subvention sur ce territoire ou pour cette thématique. Ça dépend. Il n'y a pas D'accord. de règle générale, vraiment.
Ouais. Et puis, donc voilà, ça, c'est, il me semble, hein, nos deux axes principaux de ressources. Puis on a effectivement aussi beaucoup de dons en nature. Hein. On a beaucoup de bénévolat, on a des dons...
si on demande des ordi, on nous en
apporte. Voilà, comme toutes les assos. Et puis, effectivement, on est débrouillards. Hein, donc, on trouve beaucoup, beaucoup de choses.
Et nous, ici, on connaît bien la débrouille. On est des galériens.
Oui.
Ok, merci, très clair. En tout cas, c'est oui, la débrouille. En tout cas, vous tenez bien votre nom. et ces petits débrouillards, qu'est-ce qui... Nous, on aime bien imaginer et savoir quel est le but futur du travail des invités qu'on accueille. Et vous, qu'est-ce que c'est l'imaginaire que vous essayez de faire vivre en travaillant chez les débrouillards ?
Alors, moi, j'avoue, mais après, c'est personnel, j'aimerais beaucoup, donc évidemment, intensifier au niveau local et au niveau rural. Donc, même si on essaye de le faire, mais ça peut être plus compliqué pour de multiples raisons. Voilà, et moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup, enfin, c'est dans mon imaginaire, mais beaucoup plus de relations internationales, d'échanges, de pratiques entre les pays, de comparer, parce que peut-être qu'il y a des bonnes pratiques, ou au contraire, elles ne s'adaptent pas du tout, mais aussi penser dans une autre langue, ça permet énormément de choses.
Et
évidemment, moi, l'imaginaire, pour plus tard, c'est d'être toujours plus présent et de permettre de créer des... Enfin, de créer. C'est très ambitieux comme mot, de favoriser l'émergence de la curiosité, de l'esprit critique et de citoyens vraiment qui s'impliquent dans la cité, en fait.
Et toi, Manon ?
Oui, moi, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Après, c'est une asso chouette qui fait déjà beaucoup, en fait, et qui, je pense, a un réel impact sur le public qu'elle touche. Après, dans les axes, d'ailleurs, dont on a parlé récemment, qui serait bien de développer, ce serait aussi de toucher peut-être un public plus large. Tout à l'heure, au tout début de l'émission, j'ai parlé des invisibles. C'est vraiment par essence, en fait, un public qui est difficile à toucher, parce que même pour nous, parfois, il est invisible.
Ouais.
Donc ça, c'est chouette si on peut continuer dans cet axe et essayer de toujours toucher de façon plus large et de s'adapter au mieux aux besoins pour avoir le plus d'impact possible.
Donc vous, si j'ai bien compris, votre vision, c'est de faire toujours plus de médiation scientifique, de penser, de pas s'arrêter déjà, mais s'arrêter toujours
aller plus loin,
d'aller
voir déjà, ouais.
D'autres pays, d'autres pensées, d'autres façons de penser. Et en tout cas, ça a l'air super top. Malheureusement, on doit rendre l'antenne très bientôt. Et je sais que vous aviez un petit planning d'actualité bientôt à annoncer, donc je vous laisse annoncer.
Alors oui, nous là, comme gros événement, il y a la fête de la science qui commence à partir de vendredi jusqu'au 17. Et du coup, le thème de cette année, en plus, c'est réveil climatique. Donc parfait pour cette émission Écoforum. Samedi, on est présent à Coco Velten pour faire des ateliers en fait, sur le lien entre vulgarisation et bande dessinée. Et du coup, on propose en fait, de s'exercer à dessiner le réchauffement climatique ou la biodiversité et montrer la complexité que ça recouvre. Et il y a une table ronde justement pour parler de l'intérêt de la BD, pourquoi cet essor, qu'est-ce que ça apporte par rapport à la vulgarisation. Et on sera le 14, le 15 et 16 à l'espace Bargemont, où il y a du coup le Festival des sciences à Marseille et aussi dans d'autres lieux où il y a du coup toujours plein d'animations autour du réveil climatique, mais aussi sur l'anthropologie, sur est-ce que Marseille est menacée par la montée des eaux, enfin tout un programme, donc n'hésitez pas à aller consulter sur le site, donc Fête des sciences Marseille, pour regarder tout ce qu'on propose.
Merci beaucoup, Et malheureusement, il est déjà l'heure de se quitter. Vous pourrez réécouter cette émission demain, jeudi, jeudi 6 à 9h. Et très bientôt sur le site Radio Galère dans la rubrique Écoforum en podcast. Et sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt.